Bonjour tout le monde et bienvenue à la balado diffusion du bulletin GP. Mon nom est Abdou Sall et ceci est l'épisode numéro 108. Cette semaine, pas de débat, on prend le temps de rendre hommage à un pilote qui nous a malheureusement quittés il y a 40 ans. On parle bien sûr de Gilles Villeneuve. Alors que la Formule 1 s'apprête à faire le party à Miami, bien des Québécois, mais aussi des fans de la Scuderia, ainsi que plusieurs fans un peu partout dans le monde qui ont vu le Québécois avec la voiture numéro 27 en action, prendront le temps de se remémorer de très bons souvenirs que Gilles a laissés dans l'univers de la Formule 1. Alors, le segment qui suit a été enregistré en mai 2019. Donc, j'ai pris le temps de dépoussiérer ce segment pour que vous puissiez en apprendre un peu plus sur la carrière de Gilles Villeneuve ou bien se remémorer de certains moments. Alors, voici Gilles Villeneuve, un petit prince qui ne fut jamais roi.
Même s'il n'a jamais été sacré champion du monde, Gilles Villeneuve aura marqué les esprits de nombreux amateurs de Formule 1 pour son style de pilotage toujours agressif et il ne lâchait jamais la patate, comme on dit au Québec. Ça veut dire qu'il ne lâchait jamais prise. Alors voici la biographie du pilote québécois. Né le 18 janvier 1950 à Saint-Jean-sur-Richelieu, Gilles Villeneuve est un grand amateur de course automobile depuis sa tendre enfance. À sa sortie du cégep, ou le collège, il a commencé à faire des courses de dragster, ou des épreuves d'accélération, avant de se tourner vers la motoneige. Il devient champion du monde en 1974 dans cette catégorie. C'est lui-même qui modifiait ses motoneiges en plus. Ses prouesses sur la neige l'ont amené à ses premiers amours, la course automobile sur le tarmac. Grâce à l'argent récolté en motoneige, Villeneuve put aller à l'école de pilotage Jim Russell, située sur le circuit de Mont-Tremblant. Ensuite, il participa au championnat québécois de Formule Ford, aujourd'hui Formule 1600, en 1973. Il remporta 7 courses sur 10 lors de cette même saison. Un an plus tard, en 1974, il fit le saut en Formule Atlantique. Au terme de 2 saisons relativement difficiles, le natif de Saint-Jean-sur-Richelieu se démarqua en 1976 avec un taux de victoire très impressionnant de 90%. Il avait donc remporté 9 victoires en 10 courses. Il se démarque surtout lors du Grand Prix de Trois-Rivières, édition où il bat plusieurs pilotes de Formule 1 participant au rendez-vous annuel trifluvien, dont Alan Jones, qui allait bientôt passer en Formule 1, Vittorio Brambilla et un certain James Hunt. Ce dernier, en plus d'être présent dans la région de la Mauricie pour participer à cette course de Formule Atlantique, reçut la mission de la part de McLaren de dépister le Québécois pour qu'il puisse le signer au cours de la saison de 1977. L'éventuel champion de Formule 1 de la saison 76, Hunt, n'eut que des bons mots à l'endroit de Villeneuve. C'est donc en 1977 que Villeneuve entra donc dans l'univers de la Formule 1. Lors du Grand Prix de Grande-Bretagne, à Silverstone, il roulait avec la troisième McLaren, arborant le numéro 40, uniquement pour terminer 11e, malgré des ennuis de moteur. L'expérience avec l'écurie anglaise s'est donc terminée, mais ce fut assez pour impressionner un certain Enzo Ferrari. Ferrari, impressionné par son agressivité et ses temps autour lors de cette épreuve, lui offra des essais privés à Fiorano qui furent un succès. Villeneuve devint pilote numéro 2 avec le départ soudain de Niki Lauda en froid avec l'écurie italienne. À l'origine, Villeneuve devait donc rouler avec la troisième voiture de la Scuderia. Lors de son premier Grand Prix du Canada disputé à Mosport en Ontario, il finit 12e, mais il est malheureusement impliqué dans un accrochage avec Ronnie Peterson sur Tyrrell lors de l'épreuve suivante au Japon. Lors de l'épreuve japonaise disputée au Mont Fuji, la Ferrari de Villeneuve décolla et va s'écraser au-delà des barrières de sécurité, tuant malheureusement 2 personnes, un photographe et un officiel. Les véritables débuts en Formule 1 de Gilles Villeneuve ont donc lieu en 1978, étant donné qu'il allait disputer la saison complète avec la Scuderia Ferrari. Tout d'abord, il éprouva toutes les peines à confirmer les espoirs placés sur lui. Il eut une domination nette de son coéquipier, l'Argentin Carlos Reutemann. Et même les médias italiens ont commencé à douter de son rendement. Après 4 abandons consécutifs, survenus entre les Grands Prix du Brésil et de Monaco, il inscrit son premier podium en Formule 1 en Autriche, alors qu'il finit 3e. Ce sera donc son meilleur résultat avant le tout premier Grand Prix du Canada disputé à Montréal. En réalité, il devait finir 2e lors du Grand Prix d'Italie, mais il fut pénalisé d'une minute pour avoir anticipé le départ avec la Lotus de Mario Andretti. Italie 78 fut cette même course où Ronnie Peterson fut impliqué dans ce carambolage monstre au départ et qu'il allait perdre la vie quelques heures plus tard. Arriva le 8 octobre 1978, c'est le premier Grand Prix du Canada à Montréal, disputé sur le tout nouveau circuit de l'île Notre-Dame. Villeneuve partait 3e derrière respectivement Jean-Pierre Jarier sur la Lotus et Jody Scheckter sur Wolf, une écurie canadienne. Après 50 tours, Jarier dominait la course, mais malheureusement une fuite d'huile mit fin aux espoirs du Français de s'imposer en Formule 1 pour la première fois. C'est donc Villeneuve qui s'empara des commandes de l'épreuve pour ne plus jamais être inquiété. Villeneuve remporta le Grand Prix du Canada et ainsi sa première victoire en Formule 1. Il devint naturellement le premier pilote canadien à remporter une épreuve dans la discipline reine de la course automobile. Le tout sous les yeux du premier ministre canadien dans le temps, Pierre Elliott Trudeau. Le 8 octobre 1978, il devint une idole québécoise sur la scène internationale. 1979 est donc l'année du déclic pour les Québécois. Carlos Reutemann quitte Ferrari pour s'en aller chez Lotus, et c'est Jody Scheckter, anciennement chez Wolf, qui remplace l'Argentin. Malgré les performances dominantes d'Alan Jones sur Williams et de Jacques Lafitte sur Ligier, ainsi qu'une évolution tardive de la 312 T3 à la 312 T4, Ferrari parvient à dominer la saison. Lors du Grand Prix d'Italie, Scheckter peut décrocher le titre de champion du monde des pilotes. Chez la Scuderia Ferrari, un accord est passé. Les deux pilotes peuvent défendre leur chance de remporter la course durant les deux premiers tiers de l'épreuve, mais dans le dernier tiers, les positions seront figées. Scheckter part premier, Villeneuve deuxième. Ce dernier le harcèle dans les deux tiers de la course, mais au 33e des 50 tours, il se rétracta et respecta sa parole. Donc, Scheckter remporta l'épreuve et du même coup, le championnat du monde. La saison 79 de Villeneuve est loin de se résumer à un duel perdu pour le titre face à Scheckter, puisque, malgré tout, il parvient à remporter 3 épreuves, celle en Afrique du Sud, à Long Beach et celui du Grand Prix des États-Unis disputé à Watkins Glen dans l'État de New York. Mais à part ces 3 succès, il réalise 2 performances qui marqueront durablement les esprits des amateurs de Formule 1. Il y a le Grand Prix de France disputé sur le circuit de Dijon où dans les derniers tours, il va livrer à René Arnoux sur Renault un duel sans merci dans les derniers tours de l'épreuve. Les deux pilotes se doublent, se redoublent et entament plusieurs virages en se touchant plusieurs reprises sans nécessairement sortir de piste. Les deux pilotes francophones font lever le public et pourtant il s'agissait d'une bagarre pour la deuxième place, qui sera d'ailleurs remportée par Villeneuve. Et il y a aussi le Grand Prix des Pays-Bas à Zandvoort. Auteur d'un début de course remarquable, marqué entre autres par un dépassement audacieux sur Alan Jones par l'extérieur du virage d'argent, qui est un virage incliné, Villeneuve est malheureusement victime d'une crevaison. Au lieu de se ranger doucement en bordure de piste et de mettre fin à sa journée, il continue d'attaquer au volant d'une voiture complètement déséquilibrée. une fois sur trois roues, une autre fois sur deux roues, et le pneu déchiqueté arrache des bouts de la carrosserie. À son retour au puits, il faudra toute la force de persuasion de ses mécaniciens pour le convaincre à renoncer. C'est ce qu'il fut. Si 1979 fut une année au-delà des attentes pour Villeneuve, malgré son statut de vice-champion du monde, 1980 fut tout l'inverse. En fait, cette année-là, Villeneuve était très attendu. Il avait une meilleure vitesse de pointe et en plus, il avait une expérience grandissante. Donc, il était en mesure de prendre sa revanche sur Scheckter pour le titre de champion du monde. Malheureusement, la Ferrari était une catastrophe. La 312 T5 ne profitait pas de l'effet de sol développé par les autres des écuries et entre autres découverte accidentellement par Colin Chapman et Lotus. Avec tout ça, Villeneuve se qualifiait souvent dans la deuxième moitié de la grille de départ, mais heureusement est parvenu à arracher 6 petits points, dont 2 cinquièmes places à Monaco et à Montréal, et 2 sixièmes places. Au moins, il pourra se vanter d'avoir fait mieux que Georgie Scheckter, qui a eu le déshonneur d'avoir une non-qualification lors du Grand Prix du Canada 80. Avec tout ça, Scheckter annonça sa retraite, et Villeneuve devint numéro 1 avec un nouveau pilote du nom de Didier Pironi. 1981. Ferrari tente son retour au sommet avec l'adoption du moteur turbo que Renault utilisait déjà depuis 1977. Redoutablement puissant, le moteur de la Ferrari 126 C1 avait un temps de réponse très lent. Par exemple, un pilote appuie sur la pédale et la puissance arrivait quelques instants plus tard. Ajoutez à ça un châssis avec une tenue de route précaire, et ça donne le début de saison catastrophique pour Gilles Villeneuve. Pourtant, il va réagir sur le circuit on l'attend le moins et qui semble pas du tout correspondre aux caractéristiques de sa voiture, Monaco. En effet, il réalise tout un pilotage entre les rails monégasques pour mener sa voiture vers la victoire. Il va récidiver lors du Grand Prix suivant, celui d'Espagne, disputé sur le tracé de Jarama, au nord de Madrid. Il réalise un départ fulgurant, mélangé à l'abandon précoce du champion du monde en titre, Alan Jones. Villeneuve prend les commandes de l'épreuve en début d'épreuve. Durant tout le restant du Grand Prix, il réussit à contenir ses poursuivants, qui sont plus rapides que lui, en bouchonnant de manière astucieuse les portions sinueuses de la piste et en utilisant la puissance de son moteur turbo sur les lignes droites. À la ligne d'arrivée, Villeneuve conserve sa première place et remporta l'épreuve espagnole, alors que 4 pilotes sont regroupés à moins d'une seconde derrière lui. En fin d'année, le Québécois réalise une autre prestation mémorable chez lui à Montréal sous une pluie battante. Il se classe 3e malgré un aileron avant placé verticalement en raison d'un accrochage en début de course. Ce même aileron se détachera quelques minutes plus tard. Cette course, remportée d'ailleurs par Jacques Lafitte, sera la dernière de Gilles sur le circuit de l'île Notre-Dame. Avec les progrès de la Ferrari au moteur turbo, Villeneuve figurait parmi les favoris de la saison 82 avec Alain Prost. Malheureusement, la Renault du pilote français et futur professeur était beaucoup trop forte. D'ailleurs, Prost avait remporté les 2 premières épreuves de la saison, mais ne put terminer la course lors de la 3e. Alors, c'était l'occasion parfaite pour Villeneuve de revenir dans la course au titre lors du Grand Prix de Saint-Marin. Cette 4e course du championnat du monde de la saison 82 fut très particulière. Tout d'abord, il y a eu un boycott de plusieurs écuries britanniques qui étaient dans une guerre entre la Fédération internationale du sport automobile, la FISA, et la Formula One Constructor Association, la FOCA, qui était dirigée par un certain Bernie Ecclestone, dans le temps patron de l'écurie Brabham. Le boycott était en fait une réponse à une sanction de la FISA contre Nelson Piquet de Brabham et de Keke Rosberg chez Williams, disqualifié du Grand Prix du Brésil en raison d'un stratagème de réservoir d'eau qui a été jugé illégal par la FISA. En fait, cette stratégie permettait de contourner durant l'épreuve la règle du poids minimum de 580 kg. Alors, pour cette épreuve à Imola, il y avait 14 voitures en piste, celles qui étaient du côté de la FISA. Donc, on avait Ferrari, Renault, Tyrrell et Osella entre autres. Mais Tyrrell, en fait, voulait boycotter l'épreuve, mais en raison d'un partenariat avec une compagnie italienne à quelques jours du Grand Prix de Saint-Marin, ont décidé de lever leur intention de boycott à la toute dernière seconde. Or, lors de ce Grand Prix de Saint-Marin, les deux Renault sont partis 1 et 2, mais ont dû abandonner en cours d'épreuve en raison d'un problème de moteur. Cela voulait donc dire que Gilles Villeneuve et Didier Pironi étaient donc respectivement 1 et 2 pour Ferrari. Et c'est là où la controverse arriva. Avec l'abandon des deux Renault, l'absence de menaces derrière eux met une inquiétude quant à l'usure des pneus et le carburant restant dans leur véhicule. Ferrari imposa à leurs deux pilotes, Villeneuve et Pironi, l'ordre avec un panneau slow en bordure de piste. Dans le temps, c'était le moyen de communiquer. Villeneuve, or, en a déduit que les positions allaient être gelées, comme ce qu'il avait fait lors du Grand Prix d'Italie de 1979 avec Jody Scheckter, mais dans la situation inverse où Villeneuve avait ralenti en fin de course pour laisser la victoire à Scheckter. Malheureusement, Pironi a compris l'inverse. Il pensait que c'était pour Villeneuve de ralentir. Or, dans le dernier tour de l'épreuve, Pironi en profita pour passer Villeneuve, qui avait baissé ses gardes, croyant que les positions seraient échangées à la ligne d'arrivée. Quelques secondes plus tard, c'est Pironi qui reçut le drapeau en damier en premier, à quelques dixièmes de Villeneuve. Les célébrations furent mitigées pour les deux pilotes Ferrari. Pironi célébra sa victoire, Villeneuve fut rouge de colère. « Je ne parlerai plus jamais à Didier de ma vie », a dit Villeneuve après la course. En l'espace de plusieurs tours, l'amitié entre ces deux pilotes qui s'étalaient autant en piste qu'hors piste s'était terminée. Le Grand Prix suivant se déroulait à Zolder en Belgique. Toujours furieux de ce qui s'est passé à Imola, Gilles Villeneuve est plus que jamais décidé à se venger. Le duel est lancé lors de la séance des qualifications où les deux hommes luttent pour prendre la pole. Gilles tentait par tous les moyens de surpasser le temps de Pironi en vain. C'est à cette occasion que Villeneuve eut un accident. Lancé à haute vitesse, il rattrapa la marche de l'Allemand Jochen Mass qui roule au ralenti. Constatant l'arrivée de la Ferrari dans ses rétroviseurs, Mass changea de ligne pour lui céder le passage. Au même moment, le Canadien entreprenait de le déboîter. La Ferrari heurta très violemment la marche par en arrière, puis décolla avant de retomber lourdement et de partir dans une série de tonneaux au cours de laquelle Gilles est éjecté. Villeneuve atterrit dans le grillage de protection, gisant inanimé. Il est transporté d'urgence à l'hôpital le plus proche, où son décès sera prononcé au cours de la soirée. Villeneuve fut probablement tué dès le choc initial avec le sol, les vertèbres cervicales brisées. Les circonstances de l'accident de Gilles ont fait l'objet de thèses contradictoires. Pour certains, Villeneuve était lancé dans un tour de qualification au même moment où il a rattrapé Mass, ce qui expliquerait sa volonté de ne pas lever le pied. D'autres estiment, au contraire, que le Québécois venait déjà d'effectuer un tour rapide et que l'accident a donc eu lieu dans son tour de rentrer au puits, effectué à une vitesse anormalement élevée, ou alors dans une tentative désespérée d'effectuer un deuxième tour rapide avec le même train de pneus. Mais n'empêche, Villeneuve était décédé le 8 mai 1982, à l'âge de 32 ans. Naturellement, la mort de Gilles Villeneuve a touché l'univers de la Formule 1 entier. Les amateurs ont perdu en Villeneuve quelqu'un qui avait un style de pilotage très spectaculaire. Il les laissait même admiratifs. En Italie, Villeneuve était une légende auprès des tifosi et même Enzo Ferrari le considérait comme son chouchou, puisqu'en effet, il retrouvait les qualités qui font les grands pilotes de la Scuderia. Il était rapide, généreux et très combatif. Il avait un désir de vaincre exceptionnel à chaque tour. Il ne laissa jamais tomber. Il ne fut jamais sacré champion du monde, mais il restera une légende de la Formule 1 pour son pilotage. Et pourtant, hors piste, Gilles restait un personnage timide, mais avec un charisme remarquable. Évidemment, à la suite de sa mort, il y a eu plusieurs hommages. Par exemple, en 1988, le musée Gilles Villeneuve a été inauguré à Berthierville, où on retrouve des voitures de course, des souvenirs de Grand Prix, des documents d'archives sonores et vidéos, ainsi que des centaines de photos du champion. Le musée est également consacré à son fils et à son frère. En 91, il a été introduit au Panthéon du sport du Québec. En 97, il y a eu un lancement de série de timbres en son honneur. L'année suivante, en 98, pour commémorer les 20 ans de sa victoire au Grand Prix du Canada sur le circuit de l'île Notre-Dame, il y a eu le lancement d'une pièce de 50 scènes par la Monnaie Royale canadienne. En 2012, pour commémorer les 30 ans de son décès, Ferrari a fait appel à son fils Jacques Villeneuve pour qu'il fasse un tour au volant de la Ferrari 312 T14 conduite par son père. À Monaco, il y a eu un lancement de 2 timbres commémoratifs en l'honneur du pilote qui a remporté l'épreuve en 81 par l'Office des timbres de la Principauté de Monaco. Mais l'hommage ultime, c'est le fait d'avoir vu le circuit de l'île Notre-Dame être rebaptisé en l'honneur de Gilles Villeneuve. L'inscription « Salut Gilles » est peinte sur la grille de départ et est indélébile depuis plus de 35 ans. Heureusement, le nom Villeneuve a continué sa route puisque son fils Jacques, 15 ans après son décès, est devenu champion du monde en 97 face à Michael Schumacher au volant d'une Ferrari. Il ne sera peut-être jamais champion, mais Gilles restera toujours dans le cœur des amateurs parce qu'il avait toujours cette volonté de donner le maximum, peu importe le résultat. Salut Gilles.
Alors, quel fut le meilleur moment que vous avez retenu de la carrière de Gilles Villeneuve? Est-ce que c'était une rencontre avec le pilote ou un moment important dans sa carrière, que ce soit des dépassements, une course en particulier? Laissez-le nous savoir sur nos réseaux sociaux. Nous sommes disponibles sur Facebook, Twitter et Instagram @lebulletingGP. Et nous sommes aussi disponibles sur toutes vos balados préférées, que ce soit sur Spotify, Google Podcast, Apple Podcast et partout où vous écoutez vos balados diffusion normalement. Parlant de 8 mai, ce sera le Grand Prix de Miami. Mais on sera là lundi le 9 mai pour l'émission d'après-course pour revenir sur cette épreuve complètement festive. Mon nom est Abdou Sal, merci d'avoir été là. On continue toujours de rouler avec le bulletin GP. On se retrouve lundi pour l'émission d'après-course du bulletin GP et jeudi pour l'épisode numéro 109. Portez-vous bien!